Et si on en parlait ? Du temps, de l'information, des explications. Une émission présentée par Alexis Bachelet.
Vous êtes sur Radio Orient, dans l'émission « Et si on en parlait ?». Et aujourd'hui, on va évoquer le lendemain des élections municipales, le deuxième tour qui s'est tenu ce dimanche 28 juin. Et pour analyser les résultats de cette élection, nous avons le plaisir de recevoir dans l'émission le politologue Stéphane Rosès. Bonjour.
Bonjour Alexis Bachelet.
Également président de CAP, Conseil Analyse et Perspective. Et ensemble, Stéphane, si vous le voulez bien, nous allons essayer de tirer quelques enseignements de ces élections qui, reconnaissons-le, ont un caractère exceptionnel de par leur déroulement avec cette interruption à l'issue du premier tour qui a été marquée par une très forte abstention. Et c'est peut-être là-dessus que je vais vous interroger pour commencer. On pouvait espérer un sursaut de participation avec un deuxième tour entre guillemets déconfiné. Or, tel n'a pas été le cas puisque l'abstention a fait un bond de près de 4 points avec dans certaines communes, m'a-t-on rapporté, des taux d'abstention allant jusqu'à 90%. Comment est-ce que vous analysez ce phénomène qui est pas nouveau mais qui là prend des proportions incroyables ?
Oui, phénomène inédit, proportions incroyables et situation paradoxale. Car avant le Covid, toutes les études montraient qu'il y aurait un taux de participation sans doute équivalent aux précédentes municipales. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que ce sont des élections municipales et pas nationales, et qu'au fond, la difficulté de notre travail, c'est que on commente à partir de sommations nationales, de cartes politiques, mais s'il faut tirer des enseignements, c'est sur l'état du pays, et donc il faut ramener à l'enjeu de l'élection, des élections municipales, et aux motivations qui fait qu'on est allé voter ou pas, déjà, c'est votre question. Alors pourquoi je dis ça ? Parce qu'il faut bien comprendre que si ces élections avaient lieu normalement, elles auraient été très fortement investi parce que la crise de l'État-nation fait que les citoyens se sont repliés sur leur municipalité et que l'image des maires a même progressé dans les études alors que celle de tous les autres élus baissait et celle du président de la République dans le dernier baromètre du CEVIPOF. Donc, il s'est passé là une opération due aux circonstances et au choix des dates qui a littéralement scié les pattes à la démocratie locale, car on sait la centralité du politique dans notre pays, et les Français s'étaient repliés au plan municipal parce que n'arrivant plus à se projeter ni dans l'espace ni le temps, les représentations et conduites des Français reviennent à l'ici et le maintenant, et l'ici et le maintenant, c'est le maire. C'est le rapport au maire, c'est le rapport à un élu qui a suffisamment de temps, de moyens, qui a une plus grande cohérence qu'au plan national entre ce qu'il dit et les moyens pour mettre en œuvre son projet. Et là, nous avons sans doute un maillon décisif, essentiel, fondateur de la démocratie, qui s'est trouvé d'un coup signé par le fait que au début de la crise pandémique, au fond, les Français ne sont pas allés voter, pas seulement parce qu'il y avait eu des craintes sanitaires quand le président disait qu'il fallait rester chez soi et en même temps aller voter au premier tour.
Premier paradoxe.
Premier paradoxe, mais parce que au fond, l'arrivée de la crise pandémique déplaçait le curseur des représentations des Français vers la question de ce qui soude une communauté nationale, de ses réflexes face à la mort contingente. Donc il y a eu ce premier effet au premier tour qui a évidemment entraîné une très forte augmentation de l'abstention de l'ordre de 20 points, pas seulement liée à la crise sanitaire, enfin au risque sanitaire d'aller voter, mais au fait à ce que les Français avaient en tête tout d'un coup les questions essentielles, l'urgence sanitaire dans les représentations faisait que momentanément la question municipale aussi était un peu moins importante. Et puis il y a ce second tour, vous l'avez dit, et là c'est proprement incroyable. Il y a pu y avoir la décision de faire un second tour 3 mois après un premier tour. Car un vote en France, c'est pas un acte administratif, c'est un rite républicain qui a sa logique et dynamique propre, qui demande une unicité d'enjeux, de lieux, de moments et d'acteurs. C'est-à-dire que depuis des siècles, notre pays fonctionne au travers de disputes communes. Et le mode de scrutin majoritaire à 2 tours, c'est un rite très serré qui fait qu'au premier tour, on vote selon ses préférences. Au deuxième tour, on se rassemble ou on vote par défaut, mais c'est une mécanique, c'est un rite propre. S'il fallait faire métaphore, le pédagogue Piaget disait, vous prenez un arbre, vous le découpez en rondelles, vous remettez les rondelles les unes sur les autres, c'est plus un arbre. Eh bien, c'est pareil pour un scrutin municipal, n'est-ce pas? On ne sépare pas le premier tour du second tour à ce point, parce qu'en le faisant, on casse complètement cette dynamique de vote, car un vote municipal comme un vote présidentiel n'a pas comme vocation seulement d'élire une liste et un maire. Non, non, ça a comme vocation de réactiver l'imaginaire local qui procède de l'esprit des lieux dont les candidats vont être des acteurs conscients ou inconscient. Et donc cette idée de laisser passer 3 mois entre un premier tour et un deuxième tour montre une méconnaissance anthropologique chez ceux qui ont pris la décision ou qui l'ont acceptée. Et je dirais, donc du coup, logiquement, oui, nous avons eu une augmentation de l'abstention, ce qui fait que la photo que nous avons à commenter ensemble, elle est non seulement spontanément vue d'en haut par les grandes chaînes nationales et commentateurs que nous sommes, mais c'est une photo rétrécie avec effectivement en certains endroits des participations de l'ordre de 20%, voire moins dans les zones urbaines. Ce qui évidemment rend très difficile des enseignements profonds, et je crois qu'il n'y a pas réellement d'enseignement profond quant à l'avenir. Il y a seulement des dynamiques qui se dégagent en certains endroits par la montée des maires de centre et divers droits, par la poussée des écologistes dans les métropoles.
On va y revenir dans un instant sur le nouveau paysage politique local, parce que c'est bien effectivement au niveau local qu'il y a eu parfois des bouleversements. Vous avez parlé de la percée des écologistes. Bon, on pourrait aussi parler de la renaissance du Parti socialiste, du maintien des Républicains et de l'absence de la République en marche. Mais avant de procéder à cette analyse, je voudrais revenir un instant sur la participation au deuxième tour, parce que le paradoxe qu'il y a, c'est que les maires ont été en première ligne pendant la crise du Covid. Ils ont été le bras armé de l'État, et en particulier quand l'État était en difficulté. On va pas revenir sur les vicissitudes liées à la distribution des masques, à l'information des populations, au respect des gestes barrières, etc. Et donc le paradoxe, c'est que jamais les maires n'ont été aussi importants dans l'équilibre des pouvoirs et ont montré à quel point ils étaient effectivement indispensables. Et en même temps, ils ont été fragilisés parce que certains maires sont élus finalement avec moins de 1 électeur sur 2, ce qui n'est jamais totalement satisfaisant dans un système républicain et démocratique comme le nôtre.
Oui, vous avez raison. On le sait, pendant le Covid, alors que les Français regardent d'abord l'État, l'État a fait preuve d'une impéritie, d'une inefficacité, voire d'attitude contradictoire, et surtout à montrer la baisse de son efficacité qui a énormément troublé et choquer les Français, de sorte que c'est la nation, au travers de ses blouses blanches, de la réussite du confinement par le civisme des Français, et c'est vrai, l'action des maires, hein, de la plupart des maires, et ou d'équipes municipales, hein,
oui, sûr.
C'est d'opposition, par exemple, je crois qu'on avait parlé ensemble d'un cas qui vous est proche, qui se sont déployés par la force des choses, une sorte de solidarité par le bas des Français. Hein.
Absolument.
Le président Macron avait commencé avec un discours à la Clémenceau, et ensuite les Français sont dit qu'ils étaient peut-être plus en juin 40, et finalement ça a été Valmy, ça a été un pays qui se ressaisit par le bas.
Absolument.
Pour faire face, comme souvent dans son histoire. Et donc, c'est vrai, les maires, beaucoup de maires ont été présents. Je prends par exemple un exemple qu'on connaît bien à Paris, le bilan d'Anne Hidalgo par rapport aux standards normaux était mauvais, hein. Seulement la moitié des Parisiens trouvant son bilan bon, alors d'habitude pour un maire normal.
C'est 60%, c'est ça.
Voilà, et 60% des Parisiens au départ ne voulant pas qu'elle soit réélue. Bon, la crise pandémique a fait que Anne Hidalgo a bien réagi, hein, face au Covid, mais il y en a eu bien d'autres, hein, je pense notamment à Johanna Rolland et d'autres. Bon, mais vous avez raison. Alors qu'est-ce qui se passe là? Il se passe que ce moment Covid, il est dans les têtes, et les Français sont inquiets du choc économique et social qui va arriver à la rentrée. Et donc, pour moi, abstention-participation n'est pas analysée comme une volonté de couper, surtout pas le lien avec les maires. Hein. Donc, je suis pas du tout d'accord avec beaucoup d'analyses qu'on a.
Oui, on entend beaucoup là, la désaffection, le repli.
Non, pas du tout, pas du tout. Je crois pas du tout une seconde. Et dans le phénomène d'abstention, il y a aussi sans doute le fait que, d'évidence, les situations de peur et d'inquiétude font que beaucoup de maires, je l'ai vu dans beaucoup d'endroits locaux, d'évidence au fond, même si on va pas voter parce que les préoccupations sont ailleurs, cette crise du Covid a profité aux maires sortants. C'est-à-dire que beaucoup, en un mot, beaucoup ne sont pas allés voter, y compris parce qu'ils pensaient que le maire sortant allait être reconduit. Au fond, on préfère un malheur connu à une promesse de bonheur, disait Lampedusa. En un mot, quand le monde est devenu tellement instable, le mécanisme premier,
c'est le légitimisme.
La
stabilité.
L'intuité, voilà, la stabilité, le légitimisme. Et c'est une raison supplémentaire qui fait que je ne crois pas du tout qu'il faille indexer le rapport au maire ou à la démocratie locale à ce taux de participation.
Maintenant, on va venir un petit peu sur les questions politiques, de paysage politique, si je puis dire. On a quand même, ce sera le fait marquant, je crois, hein, de cette élection municipale. On va commencer par ça, parce que c'est à l'évidence ce qui frappe les esprits. C'est dans les grandes métropoles et dans un certain nombre de villes moyennes, une percée inédite des écologistes. Qui aujourd'hui incarne à la fois un renouvellement du personnel politique, des inconnus sont devenus maires, c'est pas injurieux de le dire comme ça, et en même temps incarne aussi un mouvement d'opinion qui semble prendre de l'ampleur et qui dépasse d'ailleurs les clivages traditionnels de la droite et de la gauche.
Oui, je dirais que il y a progression des écologistes et victoire symboliquement et politiquement importante dans des écologistes, dans les grandes métropoles. Donc il y a une première question, c'est pourquoi dans les grandes métropoles et pas ailleurs? Et donc j'en donnerai deux types d'explications. La première, une lente prise de conscience de l'importance des questions écologiques et climatiques. La seconde qui est liée, c'est que la crise du coronavirus, au fond, a fonctionné dans les représentations mentales des Français comme une sorte de crise immédiate qui rappelle notre dépendance de sociétés très technologiques à l'environnement, à la question de santé, à la question de la nature, du rapport à la nature, et tout ça réactive le fait que derrière les crises sanitaires qui s'annoncent, il y a une crise encore plus monumentale à terme, qui est la crise écologique, climatique et de la biodiversité. Donc il y a évidemment tout ça, un lent processus de maturation et de conscience qui joue dans toutes les catégories françaises. Hein. Les gilets jaunes, à juste titre, avaient été un peu meurtris qu'on les présente comme, par exemple, ne se souciant pas...
Climato-sceptiques et rejetant l'écologie.
Non, ils ont été, dans leur grande majorité, très meurtris par ça, parce que, au fond, chacun a des enfants, des petits-enfants, et soucieux, évidemment, de l'avenir de la planète. Mais je rajouterais à ce phénomène massif, d'autant que, quand le devenir économique et social échappe, on va chercher la peur eschatologique, climatique, pour se réapproprier un avenir qui échappe au travers de la question écologique. Donc la question écologique, ou la question climatique plus exactement, et son facteur humain, même s'il reste encore des scientifiques qui discutent du facteur humain du réchauffement climatique, mais cette question, elle existe depuis les années 70. Or, comme par hasard, c'est dans les années 90 que les opinions s'emparent de la question, justement au moment où on passe du capitalisme managérial au capitalisme financier, qui fait que les sociétés, les individus pensent que demain sera pire. Et donc, en un mot, pour moi, la question écologique, elle est à articuler dans ses perceptions et appropriations collectives, dans un cadre du rapport à l'avenir. En un mot, les peuples vont chercher la question écologique, pas seulement parce qu'ils sont convaincus de ces effets humains, mais c'est une façon pour eux de se réapproprier un avenir économique et social qui échappe. Bon. Alors, pourquoi dans les grandes métropoles? Je crois qu'il faut bien comprendre quelque chose qui est rarement mis en avant, mais là, c'est le professionnel des études qui parle, et j'ai beaucoup travaillé depuis Pechter sur ces questions, et j'ai travaillé durant les municipales sur ces questions dans deux villes. C'est qu'il faut bien comprendre quelque chose de ce qui se passe dans les grandes métropoles. Qu'est-ce qui se passe dans les grandes métropoles? Les habitants des grandes métropoles sont contents que les grandes métropoles se déploient économiquement et en termes d'attractivité, car ils ont compris qu'il y avait une concurrence entre territoires en matière économique et d'attractivité, mais ils redoutent que le développement des métropoles se fasse contre eux. C'est-à-dire qu'ils sont pris dans une schizophrénie, on est d'accord pour que ma métropole se développe, mais si son développement, ça veut dire la hausse des loyers, une vie plus difficile au quotidien, une interrogation sur le fait de savoir si mes enfants pourront y vivre, alors, moi, classe moyenne, au fond, je suis pris dans une tenaille terrible et je vais chercher le vote écologiste comme étant un vote permettant de ralentir le processus, de construire un entre-soi socio-culturel et d'essayer dans l'entretemps de penser à de nouvelles modalités de vie dans les métropoles plus douces, avec les circuits courts, avec tous les éléments de réflexion qu'ont pu entraîner le confinement, le Covid, et les réflexions des citoyens, de sorte que le vote écologiste s'exprime dans les métropoles, parce que ce n'est pas seulement un vote de conscience des questions climatiques ou un vote politique, c'est aussi un vote dont on pense que si l'écologie arrive aux affaires, alors, on va essayer de faire en sorte que le développement des métropoles ne se fasse pas contre les classes moyennes. Hein. Donc, c'est un processus assez subtil qui est en général pas vu, y compris par les écologistes eux-mêmes, pas de façon consciente, de, au fond, pourquoi les gens se disent maintenant que les écologistes pourraient et devraient diriger des métropoles. C'est parce qu'on espère, au travers de ce qu'ils feront, eh bien, on pourra toujours habiter ces métropoles et qu'on n'en aura pas été, on n'aura pas quitté volontairement ou involontairement du fait d'une vie de plus en plus difficile dans ces mêmes métropoles au quotidien et néanmoins nécessaire, économiquement ou affectivement.
Alors, merci pour cette analyse, Stéphane Rosès. Une dernière question assez courte, parce qu'on arrive à la fin de cette première partie d'émission. Je rappelle qu'on retrouvera Arnaud Benedetti tout à l'heure. L'échec quand même du parti du président. On sait que même si c'est des élections locales, même s'il y a 36 000 communes, il y avait des listes qui se présentaient au suffrage des électeurs, qui s'assumaient République en marche ou assimilés. Et globalement, il semblerait que le résultat soit plutôt extrêmement négatif, avec des écarts importants entre les scores réalisés dans les élections précédentes, y compris aux élections européennes, et aujourd'hui, bien le nombre d'élus et l'incapacité en réalité à gagner des villes.
Oui, ben ça procède d'une erreur d'analyse totale, vous l'avez dit. Les élections municipales sont des élections immanentes. Elles viennent d'en bas, elles viennent d'un enracinement. Les électeurs se déterminent en fonction du bilan du maire sortant et surtout des projets. Ça demande connaissance des territoires et ancrage dans les territoires. Et là où Emmanuel Macron s'est fait élire sur une ligne néo-bonapartiste, dans le lien direct, la posture du Bonaparte au plan politique, dans un moment néolibéral, avec des politiques néolibérales, pendant un an il a essayé de tenir les deux, puis il est devenu complètement orléaniste derrière la jacquerie des Gilets jaunes, mais ça procède d'une erreur d'analyse de la part d'Emmanuel Macron et La République en Marche. À tort, mais par méconnaissance de la politique, ils ont plaqué des cartes électorales présidentielles, législatives et européennes sur des territoires. Ça n'a rien à voir. Donc les maires, ceux qui ont tiré leur épingle du jeu sont ceux qui étaient déjà ancrés, installés. Donc c'est un peu pour vous répondre, les maires socialistes ont été bons, mais il n'y a pas du tout une renaissance du Parti socialiste. C'est que les maires socialistes ont toujours été là depuis longtemps, donc il n'y a pas renaissance, ils étaient là, sauf qu'on ne les voyait pas. Et au travers de ces élections, on s'est rappelé qu'il y avait des maires socialistes, surtout de droite et de divers droite, car c'est la droite et la divers droite qui ont bien tiré leur épingle du jeu, qui ont bien travaillé au service des citoyens. Donc la stratégie était mauvaise, plutôt que d'accoler des étiquettes, la réponse dû profiter de sa force symbolique et politique pour voir situation par situation, en fonction des critères de La République en marche, les maires en place ou les opposants en place, dont les projets leur semblaient être adaptés aux situations locales. Mais pour ça, il faudrait qu'à la tête de La République en marche, il y ait eu des personnes qui sachent ce que sont les territoires, l'esprit des lieux des territoires, qui sachent le rapport des citoyens à leur municipalité, et au fond que la France est une mosaïque de territoires et d'esprit des lieux, dont la diversité même fait la centralité de l'État. En un mot, il aurait fallu qu'il y ait des politiques qui connaissent un peu l'histoire de France, qui soient un peu cultivés, qui ne voient pas la France d'en haut, et qui comprennent la différence dans notre imaginaire entre le réel et la réalité. En un mot, la carte politique, le personnel politique, ce n'est pas le territoire politique. Or, dans notre tradition, c'est le territoire et les territoires qui font la carte, et non pas l'inverse. Vous voyez, c'est derrière ça, c'est des questions de méconnaissance, c'est pas seulement des questions de mauvaise implantation, et personne ne peut en vouloir à La République en marche, par la force des choses, de pas avoir été ancré, mais surtout, il n'y a pas une bonne compréhension de ce qu'est la France, son rapport aux politiques, et qui procède de son histoire et de ses représentations imaginaires.
Eh bien, Stéphane Rosès, merci beaucoup pour cette analyse. Ça sera le mot de la fin dans la première partie de notre émission. Je vous remercie, Stéphane, d'avoir accepté notre invitation. Et nous retrouverons dans quelques instants pour la deuxième partie de l'émission. Et si on en parlait sur Radio Orient avec Arnaud Benedetti. À très bientôt. Merci.
Et si on en parlait, du temps, de l'information, des explications, une émission présentée par Alexis Bachelet.
Vous êtes sur Radio Orient, dans l'émission « Et si on en parlait », deuxième partie de l'émission. Dans la première partie de l'émission, nous avons interrogé Stéphane Rosès, politologue, sur l'analyse et, des élections, du deuxième tour des élections municipales le 28 juin dernier. Et donc, dans cette seconde partie d'émission, nous accueillons Arnaud Benedetti.
Bonjour.
Bonjour Arnaud, qui est rédacteur en chef de la revue Politique et Parlementaire, qui est un habitué de l'émission et un partenaire de Radio Orient. Alors Arnaud, on a vu avec Stéphane Rosès qu'il y avait plusieurs, facteurs qui apparaissaient comme extrêmement visibles dans ces élections. Et le premier élément, je dirais, d'identification de cette élection municipale, c'est une abstention très forte au premier comme au second tour.
Oui, alors il y a deux lectures possibles de cette abstention, d'ailleurs qui peuvent être complémentaires. La première lecture, c'est bien sûr celle que Stéphane Rosès a mise en avant, c'est-à-dire le fait que la crise sanitaire a manifestement été un puissant facteur de démobilisation électorale. Ça, je crois que chacun s'accorde à le reconnaître. L'autre facteur, c'est bien évidemment la rupture de la temporalité de l'élection, puisque entre le premier et le deuxième tour, 3 mois se sont écoulés qui ont rendu particulièrement difficilement lisible cette élection. Mais il y a aussi des facteurs qui sont peut-être liés aussi et qui seraient, eux, peut-être plus inquiétants, en l'occurrence, à la relation de la société aux politiques. Moi, j'en vois deux. Le premier, et qui marquerait une forme d'approfondissement de la crise de confiance que l'on a déjà vue. Le premier facteur, c'est qu'on est avec un champ politique aujourd'hui, et les élections municipales ont encore une fois montré qu'il se balkanise de plus en plus, avec une offre politique qui n'est pas forcément toujours lisible pour les électrices et les électeurs, y compris au niveau local, et d'autant plus que ces dernières élections municipales, on l'a vu durant l'entre-deux tours, ont parfois donné lieu à des alliances dans un certain nombre de métropoles, voire parfois même des villes moyennes, qui étaient quelque peu difficilement lisibles pour les électrices et les électeurs. Je prendrai quelques exemples. Les Républicains qui décident de soutenir Martine Aubry contre les écologistes à Lille ou éventuellement Gérard Collomb qui fait alliance avec les Républicains contre les consignes et les directives de l'état-major national de la République En Marche. Donc il y a là aussi peut-être des facteurs qui ont désappointé une partie de l'électorat. Dernier élément qui me paraît lui aussi important, c'est que le pouvoir local, et nous l'avions largement souligné lors d'un précédent numéro dans la revue Politique et Parlementaire, justement avant les municipales consacrées aux collectivités locales, le pouvoir local n'est plus aussi lisible que par le passé du fait des enchevêtrements administratifs qui existent entre les communautés d'agglomération, les intercommunalités, les maires. Il y a peut-être là aussi un facteur qui pourrait expliquer, je dis bien qu'il pourrait expliquer, ça reste encore à démontrer, la désaffection du corps électoral. Sachant quand même que sur la tendance, nonobstant cette dernière élection, il y a quand même un léger tassement sur les derniers scrutins municipaux de la participation électorale, contrairement aux scrutins municipaux des années 80-90.
Alors oui, c'est ce que disait Stéphane Rosès. Il y a une érosion de la participation électorale à toutes les élections, mais quand même, Stéphane Rosès, pour lui, considère que, à la différence peut-être d'autres élections, on l'a vu notamment lors des dernières élections législatives avec une abstention très très importante, le maire et l'élection locale restent quand même un rite républicain majeur Et il pense, lui, Stéphane Rosès, que s'il n'y avait pas eu la crise du Covid, et s'il n'y avait pas eu effectivement ce découplage entre le premier et le deuxième tour, on aurait eu quand même un taux de participation beaucoup plus conforme aux habitudes républicaines sur un scrutin auquel les Français sont attachés, parce qu'ils sont attachés aussi à leur maire et à la proximité, et que le maire, c'est l'élu qui peut encore agir dans son environnement quotidien. Et donc, il y avait quand même cette idée qu'il n'y avait pas forcément un lien avec la désaffection qui peut toucher d'autres institutions dans la République.
Oui, c'est probable, parce que l'échelon local aujourd'hui, notamment à travers le maire, est investi de la capacité d'agir, et de la capacité d'agir concrètement et dans la proximité, alors qu'il y a un doute aujourd'hui qui s'est installé depuis maintenant quelques décennies, même sur la capacité d'agir du pouvoir central, du fait d'un certain nombre d'interdépendances européennes et internationales qui viennent contraindre l'action publique. Donc que aujourd'hui le lien de confiance reste encore fort, d'ailleurs toutes les études d'opinion montrent que les Françaises et les Français sont très attachés à la figure du maire, se constitue en tout cas une réalité. Mais on ne peut pas totalement exclure aussi que l'échelon local soit aujourd'hui aussi, disons, affecté par ce sentiment de perte de confiance, en tout cas d'indifférence parfois, que manifeste une partie de nos concitoyens vis-à-vis de toute forme d'action politique, d'ailleurs qu'elle soit bien évidemment nationale ou locale.
Alors, on a aussi évoqué avec Stéphane Rosès un fait politique majeur qui vient bouleverser, les habitudes électorales entre la droite et la gauche. Après le bouleversement de La République En Marche, on en reparlera aussi tout à l'heure, il y a aujourd'hui, sur l'échiquier politique local, une force émergente qui aujourd'hui s'impose notamment dans les grandes villes, c'est les écologistes, selon les écologistes, parfois seuls, souvent à la tête de coalitions de gauche, mais pas seulement. Parfois, il y a aussi le sentiment qu'ils arrivent à dépasser les clivages traditionnels entre la droite et la gauche. D'ailleurs, on l'a vu à Lille, Martine Aubry a failli perdre face à une liste écologiste, et ailleurs, des socialistes, des républicains, des centristes ont été battus par les listes écologistes. Donc, comment vous interprétez cette arrivée en force dans les exécutifs locaux des écologistes, et en particulier d'Europe Écologie Les Verts?
Alors, je rejoins bien évidemment Stéphane Rosès sur une des caractéristiques principales de cette percée électorale, qui est une percée plutôt métropolitaine. Donc, percée métropolitaine, ça veut dire une certaine sociologie qui s'est portée vers le vote vert ou vers les alliances PS, vert dans un certain nombre de collectivités. Les caractéristiques de cette sociologie, ce sont des classes de centre-ville, des classes moyennes, des CSP plus moyennes ou plus, et surtout avec un niveau de diplôme supérieur à la moyenne nationale. Donc c'est une des caractéristiques très fortes de ce vote en faveur de l'offre politique portée par Europe Écologie, Les Verts et leurs alliés socialistes. Ça, c'est un premier point. L'autre point qui me paraît en effet important, c'est que c'est une sociologie assez proche de la sociologie macroniste qui avait voté massivement lors des élections présidentielles en faveur d'Emmanuel Macron, et également pour partie, mais un peu moins, lors des dernières élections européennes. Donc ça signifie aussi que, d'une certaine manière, cette sociologie électorale a quelque peu bougé lors de cette élection très locale, qui est l'élection municipale. Je rajouterai quand même un autre facteur, c'est que les élections municipales sont des élections qui, en règle générale, pas autant que lors de ce dernier scrutin, réussissent assez bien quand même aux Verts, qui, depuis un certain nombre de scrutins, ont progressé dans ces élections municipales. Donc l'échelon local étant un échelon qui correspond assez souvent à l'offre politique des Verts. Le problème de l'offre politique des Verts, c'est de s'incarner nationalement, où là, elle a beaucoup plus manifestement de difficultés. Le dernier point, qui est le plus important, me paraît essentiel, c'est ce que ça nous dit du rapport de force à gauche, ce que ça nous dit des priorités politiques aussi, et que peut exprimer une partie de l'électorat de gauche. On voit aujourd'hui que les Verts sont en mesure, dans un certain nombre de métropoles, d'imposer leur leadership à la gauche, et notamment au Parti socialiste. Et là, on est face à un phénomène dans l'histoire des rapports de force politique interne à la gauche qui est assez nouveau et dont il va falloir mesurer les effets sur ce qu'ils vont constituer ensuite nationalement.
Oui, bien sûr, on est sur des dynamiques qui sont photographiées à un instant T lors des scrutins, mais qui continuent à travailler, je dirais, les différentes couches de la population. Et on voit bien que depuis 2017, il y a des mouvements très importants.
Oui, alors ça signifie aussi, en termes d'enjeux politiques, que l'enjeu qui était historiquement porté par la gauche, quasiment depuis le 19e siècle d'ailleurs, qui était l'enjeu social, qui reste fort encore dans un certain nombre d'offres politiques à gauche, est concurrencé, sans qu'il soit d'ailleurs contradictoire, mais en termes de priorité, est concurrencé par l'enjeu environnemental. Ce qui est évident, c'est que les enjeux environnementaux qui, dans les années 70 et même au long des années 80, étaient des enjeux qui avaient émergé mais qui restaient périphériques dans le débat politique, sont en train de devenir aujourd'hui de plus en plus centraux. D'ailleurs, toutes les forces politiques aujourd'hui revendiquent une part d'écologie, quelle qu'elle soit, au-delà des Verts. Mais cela traduit en effet que l'enjeu est devenu aujourd'hui un des enjeux centraux du débat politique.
Alors, on peut aussi analyser le rebond relatif du Parti socialiste et la perte, l'érosion encore accrue du Parti communiste, qui avait historiquement un ancrage local très puissant et qui l'a perdu de ses dernières grandes communes, hein, pratiquement, en région parisienne, Saint-Denis, la seule ville de plus de 100 000 habitants gérée par le Parti communiste, qui est passée au Parti socialiste, et puis Champigny-sur-Marne, par exemple, dans le Val-de-Marne, et beaucoup d'autres communes qui sont perdues, quelques gains, mais beaucoup quand même d'échecs, et pour le Parti socialiste, on peut dire un rebond quand même limité, et qui donc semble indiquer effectivement qu'à gauche, il y a une redistribution des cartes, et que les partis traditionnels, classiques, sont quand même plutôt en perte de vitesse.
Oui, ils le sont. Alors, enfin, il faut peut-être moduler, c'est que quand même, quand on regarde de près, c'est que les partis politiques classiques, notamment les partis politiques de gouvernement, qu'il s'agisse à gauche du Parti socialiste ou à droite du Parti républicain, restent encore forts territorialement. Parce que quand on regarde les communes moyennes, on voit que, qu'il s'agisse de têtes de liste socialistes ou des têtes de liste républicains, et qui d'ailleurs, au demeurant, il faut le rappeler, n'ont très souvent assez peu ces campagnes sous la bannière de leur marque nationale, mais plutôt sur leur bilan de sortant, quand il s'agissait de sortant, ont assez bien résisté au mouvement de dégagisme que l'on voit s'installer dans la vie électorale française depuis maintenant un certain nombre d'années, élection après élection. Et moi, ce qui me frappe quand même dans cette élection, c'est que les marques politiques qui sont fortes aujourd'hui, à l'heure où nous parlons nationalement, et ont été fortes lors du scrutin présidentiel, lors du scrutin européen, sont plutôt faibles, voire parfois très faibles localement, et que les marques politiques qui ont montré de manière assez cruelle parfois leur faiblesse sur le plan national, tant d'ailleurs aux européennes qu'aux élections présidentielles, ont réussi malgré tout à rester des marques qui comptent sur le plan territorial. Avec une petite exception qui est celle des Verts. Les Verts semblent tenir aujourd'hui, à ce stade, à l'heure où l'on parle, les deux bouts de la chaîne, c'est-à-dire une capacité, on l'a vu aux européennes, à pouvoir incarner une offre politique qui, sur le plan électoral, est capable
performante
d'une certaine performance et qui sur le plan local, notamment dans les grandes métropoles, a réussi à avoir des gains qui sont substantiels. Avec une difficulté qui se posera pour les Verts, dans un pays institutionnellement où l'incarnation joue un rôle essentiel dans l'élection présidentielle, c'est justement de trouver une figure qui soit en mesure à un moment donné d'imposer un leadership, notamment à gauche.
Oui, alors qu'on sait que historiquement, c'est un parti qui est défiant envers toute forme d'incarnation, et il l'a démontré à plusieurs reprises dans son histoire récente. Alors peut-être un dernier mot, parce qu'on va vers la conclusion de notre émission, on a à peu près balayé effectivement l'ensemble du paysage politique, mais quand même il faut qu'on s'arrête par rapport à ce que vous veniez de dire, et Stéphane Rosès d'ailleurs disait la même chose, il dit on voit bien qu'entre les résultats des élections européennes et les résultats des élections municipales, c'est le jour et la nuit, et en particulier pour le parti du président, dont on voit bien en fait que c'est le parti du président mais pas le parti des territoires.
Oui, alors il y a un vrai problème pour le parti du président au regard des résultats de ce scrutin municipal, c'est que le parti du président n'a pas réussi son maillage territorial, ça c'est un fait. Tous les analystes et tous les commentateurs, les acteurs l'ont largement souligné, mais le problème aujourd'hui du parti présidentiel, c'est que c'est un parti qui est en train de se vider d'une partie de sa sociologie électorale, notamment, encore une fois, cette sociologie électorale qui est celle des grandes métropoles qui avaient amplement et largement voté en faveur d'Emmanuel Macron lors de la dernière élection présidentielle et, encore une fois, dans une moindre mesure, lors de l'élection européenne. Il y a une réalité aujourd'hui avec le macronisme, c'est que le macronisme de pouvoir, le macronisme de gouvernement est un macronisme qui a, s'est déplacé vers le centre-droit, voire parfois même vers la droite, et c'est parfaitement incarné notamment par la figure d'Edouard Philippe. Moi, ce qui me semble très important, pour terminer, c'est que il y a trois lignes idéologiques qui semblent aujourd'hui se partager la bataille idéologique qui se joue dans le champ politique français. Il y a une ligne idéologique qui est une ligne qui semble être dominante, une sorte de gauche sociétale, sociodémocrate, verte, qui est en train de se reconfigurer, et dont l'élection municipale a montré la capacité de résistance.
La force aussi d'entraînement.
Oui, d'entraînement. Il y a une deuxième ligne qui est une ligne néo-souverainiste, qui semble aujourd'hui préemptée par le Rassemblement national, mais avec d'autres formes d'expression. Et puis vous avez une ligne plus conservatrice qui existe.
Et cette ligne néolibérale.
Oui, ou néolibéral, mais qui correspond finalement assez bien à la figure du Premier ministre. Et donc Emmanuel Macron, il est aujourd'hui à la croisée des chemins, c'est-à-dire que vers quelle ligne politique il va tendre, comment son en même temps va pouvoir à un moment donné être un en même temps qui arrive à englober toutes ces lignes politiques, c'est une vraie question, parce que si vous voulez, à un moment donné, la sociologie électorale, elle ne se satisfait pas forcément des éléments de marketing politique, et c'est certainement aujourd'hui la limite de l'exercice à laquelle est confronté Emmanuel Macron.
Et Stéphane Rosès soulignait la difficulté du parti présidentiel, en particulier par son manque d'implantation, mais aussi de connaissances fines de la réalité des territoires et de la diversité des territoires français. On se rappelle que En Marche est un parti, c'est vrai, qui a d'abord performé dans les centres urbains des grandes agglomérations. Ce qui ne représente pas toute la France.
Mais je pense que c'est surtout une formation politique qui ne se veut pas parti d'ailleurs, mais enfin, c'est une formation politique qui ne s'est pas fondamentalement professionnalisée, organisée territorialement, qui a considéré que l'on pouvait gérer une formation politique comme une franchise, comme une marque. Or, une entreprise politique, on le sait, il suffit de relire Max Weber, c'est une organisation tout à fait spécifique qui doit bien évidemment s'incarner autour d'un chef, mais qui doit être capable de se territorialiser pour exister. Et c'est la première fois, récemment, dans l'histoire de la Ve République, que nous avons un parti présidentiel, donc le parti majoritaire, qui est aussi minoritaire territorialement. Ce hiatus constitue un phénomène tout à fait nouveau, qui ne sera pas sans conséquence, récemment, sur les prochains scrutins.
Eh bien, merci Arnaud Benedetti, ça sera le mot de la fin, et ça sera la conclusion de cette émission spéciale consacrée aux résultats des élections municipales du dimanche 28 juin. Il me reste à vous souhaiter une bonne soirée, c'était aussi notre dernière émission de la saison. C'était un plaisir, malgré les vicissitudes liées à la crise sanitaire, de partager ces moments avec nos auditeurs. Et merci à Arnaud Benedetti en particulier, qui a été à nos côtés pendant de nombreuses émissions. Et en tout cas, on espère vous retrouver très vite. À bientôt. Merci. Vous êtes sur Radio Orient. C'était l'émission « Et si on en parlait ?»
Et si on en parlait ? Du temps, de l'information, des explications. Une émission présentée par Alexis Bachelet.